Corps nouveau se dessine. Longtemps vécu sur le mode de la souffrance, du mystère et de la mort, subi, le corps est, depuis un siècle, l'objet d'une révolution. Mieux connu grâce aux progrès de la médecine, expliqué, inventorié, il est entretenu et soigné, réparé et appareillé. Il n'est pas seulement le lieu du dépérissement et de la finitude humaine, l'attention qu'on lui porte, pharmacologique, chirurgie, obstétrique, génétique, bio- et nanotechnologie, cosmétologique, diététique, sport, traduit autant le refus de l'idée de la mort qu'un nouveau type d'investissement identitaire. Maîtriser son corps, c'est assurer identité et destin. La responsabilité individuelle se décuple. Mieux vivre son corps devient être son corps, pour définir à travers lui un projet d'existence et de nouvelles représentations du temps.
What is right and what is wrong?
Garde les yeux grands ouverts.
Les bras ouverts, les yeux grands ouverts.
Qu'est-ce qui se passe? Ben, on ne sait pas ce qui se passe. Et justement, c'est ça qui se passe, c'est qu'on ne sait pas ce qui se passe.
Je vois une génération entière qui travaille à des pompes à essence, qui fait le service dans des restos, qui est esclave d'un petit chef dans un bureau. La pub nous fait courir après des voitures et des fringues. On fait des boulots qu'on déteste pour se payer des merdes qui ne nous servent à rien. On est les enfants oubliés de l'histoire. On n'a pas de but ni de vraie place. On n'a pas de grande guerre, pas de grande dépression. Notre grande guerre est spirituelle. Notre grande dépression, c'est nos vies. La télévision nous a appris à croire qu'un jour on serait tous des millionnaires, des dieux du cinéma ou des rockstars. Mais c'est faux. Et nous apprenons lentement cette vérité. On en a vraiment, vraiment plein le cul.
J'avance les yeux grands ouverts.
Donc quand on est riche, ça ne s'arrête jamais. Et rassurez-vous, c'est pareil quand on est pauvre. Pardon. Excusez-moi, c'est une mauvaise blague.
Que même si si on peut substituer la matraque à la conversation, les mots conserveront toujours leur pouvoir. Les mots sont le support de la compréhension et pour ceux qui les écouteront, l'énonciation de la vérité. Et la vérité, c'est que quelque chose va très mal dans ce pays, n'est-ce pas ?
Camarades, d'aucuns diront que le syndicalisme est à la société moderne, ce que le mercurochrome est à la jambe de bois.
Bonsoir à tous et bienvenue dans la toute première de l'émission Les yeux grands ouverts à l'heure habituelle, donc la quotidienne qui sera tous les dimanches soirs de 23h à minuit. Donc alors ce soir on reçoit un doctorant en sociologie qui s'appelle Quentin Froment qui est en train de rédiger une thèse socio-psychologique. Le thème donc de sa thèse c'est le sport à l'époque néolibérale. Sinon, qu'est-ce qu'on pourrait dire de plus pour compléter ton CV ? Tu es aussi prof de PS à côté. Enfin, tu as les compétences pour être prof de PS, tu as le diplôme, etc., etc. On va essayer de rentrer un peu dans le vif du sujet directement. Tu vas essayer de nous expliquer un peu déjà pour commencer, parce qu'on entend souvent dans les médias traditionnels et actuels des personnes qui sont invitées en tant qu'experts. Que ce soit sur les questions économiques, sociales ou n'importe lesquelles, qui ont des titres. On voit certains trucs des fois qui sont un peu absurdes. Il peut y avoir des ingénieurs en art de vivre, des trucs comme ça. Et on ne sait pas réellement ce que sont ces titres. Des chercheurs au CNRS, je ne sais pas, des trucs comme ça. Et donc toi, comment tu pourrais définir la sociologie ? La sociologie, c'est une science, mais c'est quoi cette science ?
Alors, bonsoir Rémi, déjà.
Ouais,
merci
oui,
pour l'invitation.
Je t'ai pas dit bonsoir en plus.
Donc la sociologie en fait c'est déjà un grand, ça fait partie d'un grand tout qui s'appelle l'anthropologie qui se base sur l'étude des sociétés humaines. Donc on a l'ethnologie qui se base sur les sociétés étrangères à la nôtre et la sociologie qui va plus se baser sur l'étude de notre société. Donc on va parler de c'est l'étude de la société occidentale.
D'accord, ok. Donc le sujet de ta thèse, c'est le sport à l'époque néolibérale, comme j'expliquais tout à l'heure. Alors tu peux peut-être un peu commencer à nous expliquer tout ça. Je pense que d'abord, avant de commencer à rentrer dans ce genre de sujet, il faut déjà comprendre ce qu'est le sport en lui-même et comment il est devenu ce qu'il est aujourd'hui.
Et je voudrais juste avant pour dire aussi ce que peut être la sociologie, à quoi ça sert avant de partir.
Vas-y, si tu veux compléter, il n'y a aucun souci. Ouais.
Donc c'est déjà le donc pourquoi la sociologie. À quoi ça sert, c'est déjà un besoin de savoir, comme toute science. Aussi un moyen aussi de ne pas faire de conneries, parce que les sociétés humaines ont fait beaucoup, beaucoup de conneries. Donc c'est essayer de comprendre le passé et le présent pour ne pas faire trop de conneries sur le futur. Et justement, le troisième point, et c'est le point le plus important pour moi, c'est ce qui m'a engagé dans un processus de compréhension sociologique, c'est anticiper le futur en comprenant le présent. C'est-à-dire que je suis assez utopique sur la société humaine. Mmh. Et en fait je pense que essayer de comprendre le présent, ça permet finalement d'envisager beaucoup plus sereinement le futur.
D'accord. Essayer de tirer des enseignements de tout ce qui a pu arriver et l'analyser.
Et surtout ce qui arrive, quoi. Parce qu'en fait, on a essayé de comprendre ce qui nous arrive à nous maintenant pour pouvoir agir après sur le
futur.
Sur le futur,
construire un futur meilleur.
Exactement.
Donc, je dis donc tout le temps, mais c'est pas grave. Faut pas s'arrêter à ça. Le sport, alors, son histoire, c'est quoi en fait ce truc ? C'est un espèce de truc étrange que tous les êtres humains décident de faire un jour entre eux. Pour quelle raison ? Comment c'est arrivé, si tu peux un peu nous resituer l'histoire du sport, ce qu'il est à peu près.
Ouais, bien sûr, ouais. Je pense qu'il y a pas mal de fausses idées par rapport au sport. C'est vrai que quand c'est que le sport est né ? Déjà, on peut parler de naissance du sport. Mm-hmm. Alors, on peut dire que c'est depuis tout le temps. On peut dire qu'il y a pas mal de théories, mais la théorie la plus complète, c'est que le sport est apparu en fait au milieu du 19e siècle en Angleterre. Mm-hmm. Donc qu'est-ce qui fait la différence ? Par exemple, on peut me dire, ouais, il y avait les Grecs, par exemple, qui faisaient les Jeux Olympiques.
Ouais, ils faisaient les Jeux Olympiques déjà, ouais.
Mais il y a des choses qui diffèrent par rapport à notre sport à nous, c'est que par exemple, il n'y avait pas de notion de record. Et en fait, dans le sport, la notion de record, elle est hyper importante, elle est cruciale. Et par exemple, il n'y avait pas de chronomètre. Mm-hmm. C'est intéressant, il y avait des records sur. Alors, il y en a un qui gagnait 3 fois, 4 fois, mais il n'y avait pas de chronomètre.
Okay.
Donc ça apparaît dans le sport. Et il y a aussi l'espace-temps. Il y a un espace et un temps qui est vraiment précis. Par exemple, l'ancêtre du rugby s'appelle la soule. Et en fait, c'est un jeu qui joue. Il y a pas de, il y a une règle qui est de d'envoyer en fait le. Il y a ces deux villages qui s'affrontent. Il faut ramener le ballon dans son village. Mais tu vois, il y a pas de temps précis. Il n'y a pas d'espace précis. Tu peux jouer quand tu veux. Et en fait, ce que le sport amène, c'est vraiment ça. C'est un processus de rationalisation.
Donner des limites de temps à tout ça et des règles en fin de compte, c'est peut-être ça. Il y avait déjà des règles dans ces jeux-là.
Comment ça? Non, il y avait des règles, mais elles étaient vraiment. Enfin, c'était des règles. C'est pas des règles, c'est des principes de jeu. Voilà. Après, elles pouvaient être dérogées, quoi. Okay. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on voit que l'avènement du sport, donc milieu du 19e siècle, ça coïncide étrangement avec l'avènement du capitalisme et notamment la propagation. Et en fait, il y a pas mal d'auteurs en sociologie du sport, en histoire du sport, qui travaille là-dessus et qui montre finalement que le sport est par essence capitaliste. Bon, après, moi je suis pas forcément d'accord avec cette idée, mais...
Ouais, ils pensent que les deux se suivent en fait. C'est l'avènement de ce qu'on appelle l'industrialisme, tout ça.
Ouais, la notion de progrès, la notion de rationalisation en fait, qui rentre en compte et qui fait que le sport a émergé à ce moment-là.
Ok, chose d'accord. Alors, peut-être, je sais pas, tout à l'heure tu as répondu, mais vaguement à cette question. En fait, j'ai une petite question aussi, c'est un peu dévié du fil de l'émission, mais pourquoi en fait tu es parti dans la sociologie? C'était vraiment juste par utopie ou il y avait vraiment d'autres choses?
C'est une bonne question. Comme je l'ai dit, c'est vraiment... Enfin, c'est utopique. Non, j'y crois vraiment. Je travaille, en fait, c'est de la sociologie clinique. Donc, en fait, je travaille entre psychologie, ou même psychanalyse, et sociologie. Et c'est vraiment... on en reparlera tout à l'heure, mais finalement, c'est comme si... Il y avait le capitalisme, et il y a toujours le capitalisme. Karl Marx n'est pas mort, on en parlera tout à l'heure. Mais finalement, il y a un nouvel ennemi qui est intérieur. Et en fait, c'est dans nos pratiques quotidiennes, et notamment, on parlera du sport après, on voit vraiment que nos pratiques sportives, par exemple, peuvent correspondre. L'ennemi, il est intérieur. Et en fait, toutes nos occupations, tout ce qu'on fait de manière quotidienne, ça peut être aussi... vécu sous l'ordre du néolibéralisme. Et en fait, pour répondre à ta question, c'est ça qui m'intéresse en fait, c'est d'essayer de comprendre, de faire du bien à la société. Essayer de pour s'élever, pour comprendre, pour avancer, il faut déjà comprendre qui on est quoi. Et donc du coup, pour faire avancer la société, une société ne peut avancer que si elle a conscience de qui elle est quoi. Et moi c'est un peu ça, c'est avec toute simplicité, en toute modestie, je fais un petit travail, mais c'est vraiment essayer d'apporter ma petite pierre à l'édifice pour apporter mon truc de compréhension de société. Pour qu'après on essaye d'aller un peu plus loin, quoi.
D'accord. Alors ensuite, en fait, ce sport dont tu nous parlais, qui a commencé historiquement de manière un peu inattendue, parce qu'on s'attendait peut-être pour la plupart. Moi, quand tu m'as expliqué ça, je pensais que le sport était millénaire et que les règles avaient toujours existé dans le sport et que c'était comme ça. Mais comment, en fin de compte, à son avènement, il a fini par évoluer à ce qu'il est devenu aujourd'hui? Quels sont un peu les cycles de l'évolution du sport?
J'avais juste une petite anecdote parce que c'est marrant avant de répondre à ça.
Ouais.
C'est marrant. Donc moi, je travaille vraiment sur le sport justement qu'on utilise de matière utile, alors qu'en fait le sport à la base c'est un loisir et c'est fait de manière inutile. Et le premier sport qui est apparu en fait, c'est un sociologue qui s'appelle Norbert Elias qui travaille là-dessus, je sais plus dans quel livre, ça doit être Civilisation des mœurs je pense, et qui nous raconte finalement que le premier sport qui est apparu c'est au 16e siècle et c'est la chasse au renard. Et en fait c'est super drôle parce que c'est vraiment inutile quoi, ça sert à rien, le renard ça se mange pas et c'est vraiment ça, c'est de là qu'est parti le... Qu'on peut dire que le sport est né, quoi.
Ah ouais.
C'est, ouais.
C'est assez ouf. Voilà.
Donc tu voulais savoir l'évolution.
Voilà, exactement. L'évolution du sport. Comment il en est arrivé à ce qu'il est aujourd'hui? Après, je pense qu'il est passé par des phases, en fait. Il n'est pas devenu ce qu'il est aujourd'hui dans le néolibéralisme. Mais comment il a évolué? Comment il a muté, si je peux m'exprimer ainsi?
Donc ça a commencé, quand on parle de sport milieu et fin du 19e, voire même première moitié du 20e, c'est vraiment le sport traditionnel, en fait. On a le triptyque natation, gymnastique, athlétisme, qui est hyper prégnant. Et on a aussi tous les sports collectifs. Le rugby, le football qui se mettent en avant dès 1870-80. Donc c'est un sport en fait, et ça suit. Donc jusqu'aux 30 Glorieuses en fait, c'est un sport qui reste un peu identique en fait. Et on est vraiment sur les notions de progrès, donc avec l'athlétisme, natation et même avec le sport. On prend Coubertin qui a réinventé les Jeux Olympiques, qui parle plus haut, plus loin, plus fort. On est vraiment sur cette optique de dépassement. Et on est en plein dans le mythe de la modernité. On est en plein dans le mythe de la modernité. Donc c'est ces sports-là qui correspondent jusque dans les années 50-60. Et on voit vraiment alors c'est pas un basculement, on va dire que ça se rajoute. On passe d'une société moderne en fait à une société post-moderne dans les années 60-70. Et en fait, dans la société, il se passe des choses.
Les libérations des mœurs, tout ça.
C'est exactement ça. Ouais. L'exemple frappant, c'est mai 68.
Mai 68, ouais,
la libération. Et comme on va parler de corps, c'est la libération des corps, la libération de tout, quoi.
Le début de la liberté individuelle, en fin de compte.
C'est exactement ça. Donc, la religion qui s'amoindrit un peu, la famille qui prend moins de place, la patrie aussi. On est beau, un peu moins patriote que les deux grandes guerres qui viennent de passer. Et ça, en fait, ça emmène un accroissement de l'individualisme et du coup, qui a aussi écho sur un accroissement du narcissisme, mais dans le sens positif. Dans le sens positif, c'est-à-dire que c'est une libération, c'est vraiment quelque chose de il faut le prendre. Alors, on en parlera tout à l'heure sur la société de maintenant, mais l'individualisme, au départ, il faut vraiment le prendre comme quelque chose de positif. Et donc, au niveau des sports, on voit vraiment apparaître, donc c'est les années 60-70, tous les sports qui viennent de Californie, notamment les sports fun, roller,
surf,
skateboard, exactement, même jogging, aller faire son footing sur la plage.
Ouais, c'est vrai qu'on a toujours un peu l'image du l'espèce de comment dire de self-made man à l'américaine qui, avant de partir au boulot le matin, il va faire son petit footing avec sa montre Nike et puis
mais
c'est parti, quoi.
Ça va rejoindre ce qu'on va parler tout à l'heure. Ouais. Pour l'instant, on n'en est pas encore là.
Ah,
on en est vraiment. Sur une notion cool du sport, vraiment cool.
Ah ouais.
On est toujours sur l'inutilité.
Okay.
C'est-à-dire qu'on va, ou même les sports de nature, l'escalade, il y a plein de sports qui se mettent en place et qui, le ski aussi qui se met en place.
Hein.
Il
n'y
a pas forcément d'utilité. Et on reviendra après justement sur la notion de self-made man. On reviendra là-dessus.
Donc là, on était au post-modernisme en fin de compte.
Ouais.
Ouais, ok.
Et juste pour rajouter, parce qu'en fait, en même temps qu'il y a cet écho-là, il y a aussi la fin des Trente Glorieuses qui arrive au niveau historique. Donc c'est les années. Les Trente Glorieuses, c'est 45-75.
Et en fait. Crise en fin de compte. Ouais.
Exactement. En fait, en même temps qu'il y a Libération, il y a aussi paradoxalement l'arrivée du chômage qui arrive. On n'avait jamais connu le chômage avant en France.
Ouais.
Création de la NPE en 74. Donc des illusions du plein emploi, il y a plein de choses qui arrivent comme ça en fait avec les chocs pétroliers, tout ça, et ça va emmener en fait ce qu'on va appeler l'hypermodernité. Donc en fait la postmodernité, c'est comme si tous les mythes, les grands mythes des Lumières, de la modernité, du progrès, de la raison, ça s'effondre un peu et qu'on passe sur une autre modernité. C'est carrément c'est post, c'est-à-dire que c'est même pas une autre en fait, c'est que on change de, c'est plus, on est plus sur ces valeurs là et finalement là dans les années 90, donc c'est le, on va venir sur la société actuelle, on voit vraiment comment dire cette finalement ça en fait c'est ce ça s'appelle l'hypermodernité, c'est-à-dire que on se ressent finalement, on voit que la modernité n'est pas finie, au contraire elle est en plein accroissement, sauf qu'elle est individualiste. Et finalement on passe de l'individualisme positif à l'individualisme négatif. Il y a un repli sur soi, un perte des valeurs collectives, un déni de l'altérité, tout ça. Et dans les sports, donc je sais pas, à ton avis, qu'est-ce qui, dans les années 90-2000, c'est quoi les sports qui montent en flèche?
Tu veux dire au niveau de la popularité? Ou au niveau de
la
pratique.
De la pratique.
Ah, la pratique.
Je parle vraiment que de pratique.
Ok, hein. À ce moment-là, c'est, selon moi, ce qui s'est plus développé, c'est les sports de salle.
Ouais, c'est
ça. La musculation, les endroits où, en fin de compte, les gens viennent payer pour avoir soit le service d'un coach qui peut leur expliquer comment faire du sport, soit pratiquer du sport eux-mêmes, mais essayer de muscler leur corps, quoi, en fin de compte. Enfin, je pense, après, peut-être que je me trompe.
C'est exactement ça en fait, il y a une explosion, alors il y a plein d'études qui ont été faites là-dessus, des statistiques, une explosion des sports d'entretien et de développement personnel, donc c'est tout ce qui est jogging, ça se passe dans les salles de sport ou même dans les parcs, hein.
Ouais, ouais.
Tout ce qui est jogging, footing, et on voit vraiment un... C'est presque, ça rejoint beaucoup aussi la notion de culpabilité, d'angoisse, parce que on voit des gens qui sont vraiment sur le processus de rationalisation. On a les iPods branchés sur les bras avec le nombre de calories, et on est, et c'est là où la notion d'utilité, alors qu'à la base, ce qui est marrant, c'est que le sport, c'est de l'inutilité comme le loisir, et qu'en fait, on arrive sur une notion d'utilité.
Oui, on le fait pour quelque chose.
On le fait pour quelque chose. Ça soit, alors, les deux choses principales, c'est la santé.
Ouais.
Et l'apparence.
Ouais, ouais.
C'est comme si, alors c'est Jean Baudrillard qui parle de ça. Il a écrit un livre dans les années, en 1970, qui s'appelle La société de consommation, et qui parle du, on vit notre corps comme un capital. C'est un capital en fait à investir, à exploiter. Donc il y a un capital santé et il y a un capital apparence qui est mis en place, quoi. Et c'est vraiment, et sur les notions, enfin sur ça, sur les notions de, c'est exactement ça, quoi. C'est exactement ça.
Voilà, on était au lieu la libération et tout ça, des contraintes sociales, etc. La mutation du sport dans la société moderne. Et on pourrait se demander, alors on a le droit de se demander, parce qu'en fin de compte, cette recherche d'utilité que les gens ont envers le sport, pourquoi elle fonctionne en fin de compte?
Bah ça c'est tout l'objet de ma thèse.
Ouais,
ouais, il faut que souligner que je suis en première année.
Ouais, d'accord.
Mais j'ai pas mal d'hypothèses déjà et j'ai fait aussi pas mal d'entretiens qui peuvent aussi confirmer certaines de mes hypothèses. Bon bah il y a déjà, avant de parler des choses un peu subjectives, il y a vraiment des choses extérieures qui sont flagrantes. Pourquoi ça marche? Pourquoi on prend en compte notre corps et notre santé de manière si flagrante, quoi.
Ouais.
Et si forte, vraiment. Il y a une centration.
Ça devient même une obsession pour certaines personnes. Hein.
Mais c'est même pas. Enfin, tu dis certaines personnes, mais je pense que c'est. Ouais, ça considère la majorité des personnes.
Enfin, ouais.
Je sais pas si. J'ai jamais parlé avec quelqu'un. C'est très rare de voir des gens qui s'intéressent pas à leur corps maintenant.
Ouais.
Alors que. J'ai pas dit que nos grands-parents s'intéressaient pas au corps, mais.
Il y avait plus de laisser aller.
Peut-être un peu moins, ouais. Et donc, la première chose, c'est qu'on peut pas. Enlever, c'est impossible, c'est la sédentarisation de la société. C'est-à-dire qu'on est sur des travaux beaucoup moins manuels. Il y a la télé, les nouvelles technologies qui arrivent. Donc ça emmène vraiment tout ce qui est laissé aller. On fait plus beaucoup de choses. Vas-y.
Tu parles de sédentarisation, mais en fin de compte, ce que tu veux dire par là, c'est que ouais, les métiers qui sont moins physiques, c'est-à-dire qu'avant, il y avait énormément d'industries. Maintenant, l'économie française, c'est de plus en plus recentré sur les métiers de service.
Ouais, exactement.
Donc, en fin de compte, les gens, les travaux physiques, ils en font beaucoup moins. Ils sont, enfin, je dis pas pour la plupart, mais il y a beaucoup de gens qui travaillent, plus de gens qui travaillent dans les bureaux ou qui font des boulots de commerciaux ou trucs comme ça, et des activités beaucoup moins physiques qu'avant. Donc, il y a un moment où ils ont envie aussi certainement de faire cette activité-là ou d'évacuer l'énergie qu'ils ont et ils essayent de trouver un moyen, quoi.
Bien sûr, il y a ça et puis il y a aussi tout ce qui est voiture, transport en commun,
oui,
qui s'est développé. Il y a énormément de choses qui font que la société est devenue sédentaire et le sport c'est devenu vraiment quelque chose de...
Un défouloir en fait, non?
Presque, ça fait presque partie comme manger et dormir, quoi.
C'est quelque
chose d'essentiel dans la vie de tous les jours, quoi.
Vas-y.
La deuxième chose, pourquoi ça marche, qu'on peut pas enlever, c'est l'allongement de la durée de vie. L'allongement de la durée de vie qui est, la médicalisation de l'existence. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup moins, enfin, il y a des maladies, mais il y en a beaucoup moins. On est presque sûr maintenant, actuellement, d'arriver à un âge mûr. Sans avoir trop de pépins, quoi. Donc ça rentre en compte. Il faut préparer la vieillesse. Il faut préparer la vieillesse. Donc ça, c'est les deux aspects importants qu'on peut pas laisser échapper.
Mm-hmm.
Extérieur, objectif.
Pour certains, par contre, parce que y a, dans certaines classes de la société, je pense que vivre vraiment vieux, c'est pas dit que ce soit. Enfin, disons vivre vieux en bonne santé, ça c'est encore un autre problème. Parce qu'on vivra forcément plus vieux. Mais je pense notamment à certains milieux ouvriers où les gens savent qu'ils vont vivre plus vieux, mais ils savent pas dans quel état ils vont être, quoi. C'est aussi ça le problème.
Non, bien sûr. Là, c'était une généralité. Générale, mais bien sûr.
Après, c'est sûr que la durée de vie s'allonge en général, quoi.
Et en fait.
Vas-y, si tu veux compléter sur le
ouais,
fait
ouais.
que.
Bah non, mais juste, fonctionne. En fait, c'est. Après, là, je vais vraiment partir sur ce que moi je travaille, c'est-à-dire.
Ouais.
Ce qui prend la tête, c'est-à-dire ce qui est l'emprise psychique en fait derrière tout ça. Donc on a deux facteurs objectifs, donc l'allongement de la durée de vie et la sédentarité. Et il y a aussi quelque chose qu'on parle pas et que moi je retiens dans tous mes entretiens, c'est un truc de fou et c'est ça qui caractérise pour moi l'hypermodernité. C'est le devoir impérial de réussir sa vie.
Mmh.
C'est-à-dire qu'en fait, on est dans l'impasse, impossibilité psychique de se laisser aller.
Mmh.
Tu sais, c'est une angoisse, mais une angoisse aidante, quoi, de dire putain, je vais louper ma vie. De se mettre en position d'échec. Et en fait, c'est ça, c'est que on a vraiment, par rapport à avant, notre destin en main. Donc on a une liberté, mais la liberté, finalement, il y a un triptyque, liberté, responsabilité, culpabilité. Plus de liberté entraîne plus de responsabilité emmène plus de culpabilité. Et du coup, il y a vraiment une notion de culpabilité. Je travaille dans une salle de sport qui, son slogan, c'est pas d'excuses.
Donc on
c'est
assez tranché, enfin,
tout de suite. Vous la reconnaîtrez, ouais.
Vous
allez taper un peu sur internet. Mais c'est un truc assez fort en fait et qui est très fort chez les gens finalement. En plus, bon, les gens me parlent beaucoup des deux points que j'ai évoqués précédemment, mais il me parle aussi énormément de cette angoisse-là, cette angoisse du vide, quoi, de se dire, putain,
si j'ai pas fait quelque chose de ma vie, c'est même pas je l'ai loupé, c'est juste le fait de pas faire quelque chose de sa vie, non ?
Ouais, ouais, de louper, de passer
ouais.
à côté. De...
Ouais, ouais.
En fait, c'est réussir sa vie, c'est carrément, c'est une tyrannie, c'est presque, enfin, c'est beau aussi, hein, le self-made man, l'homme entreprise, c'est beau, mais c'est dur. Et il y a des moments aussi, et d'ailleurs, on revient là-dessus, c'est super difficile. Et faut pas s'étonner si les antidépresseurs ça marche à bloc. La France est le premier pays. Et les psychanalyses et les analyses elles explosent. Il y a plein de choses là-dessus. Et je pense qu'on est vraiment là sur un souci contemporain. Mm-hmm. D'ailleurs qu'on parle peut-être pas assez. C'est marrant. Enfin, alors pour moi ça saute aux yeux. Et dès que j'entends quelqu'un qui me parle de ça, c'est vraiment ça. C'est cette angoisse-là, de dire putain, je peux pas louper quoi. Il faut que je réussisse ma vie, c'est primordial. Et du coup ça rejoint beaucoup ça. Du coup ben ça crée aussi des petites dépressions chez les gens, tu vois, de se dire putain, à un moment donné où tu n'y arrives plus, où il faut toujours rester en haut. À un moment donné tu peux pas rester en haut, c'est pas possible. Donc tu redescends
peux pas
en bas.
Être toujours au top. Non, c'est sûr.
Tu peux pas toujours. On te dit il faut toujours que tu sois au top. C'est l'idéologie néolibérale, l'idéologie du moment. Il faut toujours
c'est
que tu sois au top. L'excellence, exactement. Mais tu peux pas. Tu peux pas continuer comme. Tu peux pas suivre. C'est pas possible. Et à un moment, t'es obligé d'aller en bas. Et quand t'es en bas, c'est les chutes russes qui commencent, quoi, tu vois.
Ouais, ouais.
C'est les
parce
montagnes.
En fait, on est tous des êtres faits de chair de sang et que d'être au top tout le temps, on n'est pas
bien sûr.
Gros,
ouais.
C'est impossible.
Et j'avais un mot pour ça. J'avais un mot, je trouve joli. C'est le spleen contemporain.
Mm-hmm.
Tu vois, c'est un peu ça. Et là, j'aimerais bien revenir sur un groupe que tu vas présenter qui s'appelle Fauve.
C'est, ouais, tu voulais dire. Ouais, c'est un groupe qui marche bien.
Putain, bah ouais, ça explose. C'est. T'imagines pas comment la jeunesse
elle se retrouve là-dedans en fait.
Ah, carrément, ça cartonne et faut comprendre pourquoi. Les adolescents, ils adorent ça, mais c'est même pas que l'adolescence, ça va plus loin. Et je pense qu'il y a plein de gens qui se retrouvent là-dedans.
Mais oui, bah je pense que toi t'as été touché aussi par ce groupe et pourtant t'as quel âge aujourd'hui ?
26.
Moi j'en ai 27 et moi aussi ce groupe il m'a touché aussi parce que notamment dans ce morceau, on va le laisser parler par lui-même, mais c'est assez édifiant quand même et puis ça nous parle quoi en fin de compte. On se retrouve dans pas mal de choses qu'il peut dire quoi. Il y a aussi ça, hein, certainement.
Du temps sur le spleen, ouais, ouais. Ça me fait penser à Baudelaire, quoi. C'est,
ouais, ouais.
Wow, au moins poétique, au moins. Mais,
ouais, c'est de la poésie moderne, quoi. C'est différent.
C'est
différent.
Ouais. Et puis ça fait passer des émotions que j'ai l'impression que beaucoup de gens ressentent, quoi.
Ouais, donc, exactement. C'est aussi ce que tu voulais dire et ce que tu m'as dit tout à l'heure quand on discutait, c'est que sociologiquement, c'est plein de matière en fin de compte.
Exactement.
Ça peut parler.
C'est. Je sais plus qui disait ça. C'était que Brel, en fait, en 3 minutes, il arrivait à te faire du Zola qui dure 40 pages, quoi.
Ouais.
40 pages, 400 pages, pardon.
Ouais, d'accord. Ouais, parce qu'en fin de compte, même s'il n'y a pas énormément de mots qui sont explicités dans la musique, il y a une force émotionnelle tellement
exactement.
Puissante qu'en fin de compte, les émotions, tu les ressens et tu comprends.
Et l'émotion, on est toujours sur la raison, mais l'émotion peut dire beaucoup de choses sociologiquement.
Ouais, et beaucoup plus que pas mal de mots. Hein.
Exactement.
Et ben, c'est parti maintenant. Ce morceau s'appelle Sainte-Anne et c'est du groupe Fauve.
Je sais même pas par où commencer en fait. En même temps, c'est la première fois que je fais ça, donc vous m'excuserez si ça part un petit peu dans tous les sens ou si je suis trop confus. Faut dire qu'en ce moment, j'ai bien du mal à mettre mes idées au clair quand même. J'ai bien du mal à trouver mes mots. Enfin voilà, je vous dresse le tableau vite fait. Je suis né dans une famille plutôt aisée, j'ai toujours été privilégié. J'ai jamais manqué d'amour ni de rien d'autre d'ailleurs, même si ma mère, qui vient quand même d'un milieu assez populaire, était parfois un peu sévère avec mes frères et moi. À l'école j'étais bon élève, à la maison j'étais poli. Je me souviens pas avoir fait trop de conneries étant petit. Par contre j'ai fait des études correctes et aujourd'hui je sais que mon parcours est plus ou moins tracé. Disons que je sais où j'arriverai si je continue sur ma lancée. J'aurai probablement une femme et de beaux enfants, un crédit à payer, un épagneul anglais et un coupé cabriolet. Et pourtant, vous voyez, ça fait maintenant presque 6 mois que je dors à peine, que je peux ne rien bouffer pendant 2 jours sans même m'en apercevoir. Et quand je me regarde dans le miroir, j'y vois un mec bizarre, pâle, translucide, tellement livide, à faire sourire un génocide. Docteur, je rigole pas. Faut que vous fassiez quelque chose pour moi, n'importe quoi. Prenez un marteau et pétez-moi les doigts, je sais pas. Parce que là, je peux vraiment plus. Je peux plus sortir dans la rue, je peux plus mettre les pieds dans des bureaux. De toute façon, je suis devenu incapable de prendre le métro. Ça pue la mort, ça pue la pisse. Ça me rend claustro et agressif. Et puis j'ai vraiment l'air d'un gland dans mon costard trop grand et mal taillé. Que même si je voulais faire semblant, il y aurait toujours marqué en gros troufion sur mon front. Et puis tous ces gens qui cherchent absolument à s'entasser, qui poussent, qui suent, qui sifflent entre leurs dents comme des serpents. Vas-y, du coup, monte, t'as raison. De toute T'auras beau être le premier arrivé à la clé, on va tous se taper la même journée scabreuse. Les yeux collés à l'écran de l'ordinateur, tu détruis les pupilles, à lire en diagonale des choses auxquelles t'entraves que dalle. Non mais tu comprends, il est hyper important ce dossier. Le client ira que 300€ l'heure, alors tu te débrouilles, tu vas chercher sur Google s'il faut, mais tu me finis ça pronto. Ah oui, vous avez parfaitement raison, oui. C'est de ma faute, oui, je suis pas assez réactif. Ah c'est drôle, oui, collez-moi des gifles. Connard. Et si t'allais plutôt te carrer des poignées de porte dans le cul pour voir? À déjeuner des salades composées à 12€ ou de la barbac en carton mouillé, de manger sur un coin de table, puis de passer des après-midi minables à enculer les mouches et finir par embrayer sur des after-work entre collègues. Mais quel cafard, à croire qu'on aime tellement se faire enfler la journée qu'on en redemande le soir. Mais bon, faut dire aussi qu'on y rencontre des meufs, ou plutôt des célibatantes, c'est-à-dire des nanas qui, comme nous, ont des problèmes affectifs. On se présente, on leur raconte des cracks, on leur dit qu'on est collab alors qu'on est à la fac, et qu'en vrai on passe notre temps à user nos culs sur des bancs trop étroits, à écouter des types chauves déblatérer, déblatérer, déblatérer toute la journée, déblatérer sur tout et surtout sur n'importe quoi. Heureusement, nos journées se finissent toujours de la même façon. On rentre et on se fait beau pour la soirée, on met nos polos col relevés, puis on se retrouve au QG pour picoler des demi à 5€. D'ailleurs, quand on a un peu de plomb dans l'aile, on a souvent envie de jouer aux rebelles et de crier au taulier. Dis donc, tu te prends pour qui, enfoiré? Tu trouves pas que ta bière, elle est un peu chère? On le ferait si on avait un peu de cran dans nos artères, mais on préfère se taire et continuer à gaspiller notre thune, à user notre salive pour pas grand-chose et à fumer comme des sapeurs, histoire de s'amoucher à fond avant d'être vieux, d'agrandir les valoches qu'on a déjà sous les yeux. À part ça, on parle surtout des filles qu'on a vues sur le net, et puis de celles qu'on aimerait attraper en soirée, car ce soir, comme tous les soirs, on va essayer de niquer, mais surtout pas de faire l'amour, parce que l'amour, c'est pour les PD. Rien de bien choquant finalement, des gars qui parlent des filles qui baissent pour dire qu'elles baissent, la baise. On en garde souvent que des regrets, parfois des maladies. Au fond on fait ça sans plaisir, sans réelle envie. C'est surtout pour ne plus penser, ça cache des plaies à vif mais ça c'est un secret. En vérité on est perdu, désœuvré, désabusé, seul comme des animaux blessés. On est triste et nos cœurs saignent mais on se cache derrière nos grandes gueules et nos mots durs. Entre nous on s'appelle mec, meuf, bâtard, baltringue, bitch, guinasse, connard. Parce que sans le vouloir, les autres sont un combat permanent. Décidément docteur, on vit une chouette époque, et dans une chouette ville aussi. Paris, Paris la nécropole, Paris qui sent la carne, Paris qui petit à petit entraîne dans sa chute des fragments de nos vies. Paris c'est tellement sain et nous sommes des gens bien, tellement bien qu'on est trop bien pour nos voisins auxquels on prête pas plus d'attention qu'à la pisse derrière la cuvette des chiottes. Parfois j'ai juste envie de hurler, t'approches pas de moi, t'approches pas de moi, me touche pas, t'approches pas de moi. Docteur il me faut un truc, n'importe quoi, sinon je vais craquer, et je risque de cogner une vieille, un passant, un mioche, et ce sera moche. Ce sera vraiment moche.
Eh bien, vous êtes toujours dans l'émission Les Yeux Grands Ouverts sur Radio Canus 102.2 FM sur Lyon. Et aujourd'hui, on reçoit notre ami Quentin Froment, qui est doctorant en sociologie. Donc, on vient de passer ce petit morceau de Fauve, qui s'appelle Sainte-Anne, qui pour toi est assez symptomatique, et qui veut dire énormément de choses sur la culpabilité qu'on peut ressentir dans la société moderne. Tu veux peut-être un peu débriefer, enfin essayer de dire un peu ce que tu ressens par rapport à ce morceau et tout.
Non, débriefer puis enchaîner.
Ouais.
Tu vois, moi ce morceau j'aurais carrément appelé Fatigue d'être soi, quoi. Il représente exactement ça, et c'est ça fait partie des mots MAUX contemporains. Quand il dit les autres sont un combat permanent, c'est, enfin,
ouais, ouais.
Moi je le ressens, je l'ai ressenti et je le ressens toujours, même si c'est un peu moins fort maintenant. Mais tu vois, c'est cette notion là,
cette envie de prouver toujours quelque chose, tu veux dire,
ouais, cette envie de prouver qui t'emmène justement sur, ouais, il faut toujours prouver, il faut toujours pas forcément être meilleur, mais il faut se distinguer, tu vois,
ouais, ouais, ouais.
Et il faut être visible sur la scène sociale. Il y a un livre qui est sorti là, qui est super bien, qui s'appelle les tyrannies de la visibilité, être visible pour exister. Donc c'était en 2010, je crois. C'est, enfin moi, ça me parle, rien que le titre, ça me parle, quoi. C'est
être visible pour exister.
Être visible pour exister, le besoin de reconnaissance, le besoin, il faut créer une identité, quoi. Créer une identité pour être visible, être reconnu, quoi. C'est, ça me paraît primordial, quoi.
Et sous plusieurs aspects, d'ailleurs, ça se manifeste dans la société, ce genre de truc.
Ben, c'est comme, tu vois, quand il disait les autres sont un combat permanent, c'est comme si on vivait nos vies comme des entreprises. Mmh. Tu vois, c'est comme si le monde du travail, il était calqué sur notre monde quotidien, quoi.
Ouais, sur la vie sociale, en fait.
Sur la vie sociale. C'est comme si on vivait sur un marché humain et qu'on était tous des entreprises. Bon, c'est pas vrai, hein. C'est pas vrai, mais il y a une tendance. Il y a une tendance pour moi à ça, quoi, que je retrouve d'ailleurs dans mes entretiens, de se vivre comme une entreprise. Bon, d'ailleurs, il y a le réseau social Facebook. Enfin, c'est la vitrine de notre entreprise. Mmh. C'est pas que ça, mais ça en fait partie. Et c'est comme si on vivait, il faut mettre son entreprise dans l'excellence, tu vois. Il faut bien la placer, quoi.
Faut la mettre en avant.
Et c'est là que le sport, il faut la mettre en avant. Et c'est là que le sport, ou même les loisirs en général, les loisirs qui étaient à la base faits pour une compensation du travail, c'est fait maintenant dans une quête de réussite de vie. Quand tu pars en vacances, tu pars toujours pour te délasser, pour prendre du bon temps. Mm-hmm. Mais t'as toujours, tu vois, il faut que tu visites le dernier truc du coin,
Faut que tu montres que t'as visité le dernier truc.
Il faut
truc
que tu montres que t'as visité le dernier. Exactement, il faut que tu montres ça. Et le sport, c'est pareil, tu vois. En EPS, ce qui se passe maintenant, c'est ça. C'est que tu demandes aux gamins, ouais, on va faire du badminton. Ouais, mais généralement, ils aiment bien. Mais tu vois, ils disent, monsieur, ça sert à rien. Sert à rien. Ouais. Tu vois, c'est la phrase qui elle est choquante, cette phrase. Ça sert à rien. Alors que les sports qui marchent à fond en ce moment, c'est en train d'exploser à l'école. C'est musculation, step, fitness. Ça sert à quelque chose.
Ouais,
ça sert à quelque chose.
Sur le corps, il y a vraiment un effet assez remarquable.
Mais bien, ouais, que ça soit au niveau santé,
disons,
déjà.
Plus remarquable que sur
Et puis, il y a quelque chose, tu vois. Ouais. Je vais améliorer ma santé. Je vais améliorer mon apparence. Mm-hmm. Pour,
paraître bien.
Paraître bien, ouais. Mais même être bien, ça compte aussi. Le culte du bien-être, il est. Mais tu vois, c'est toujours dans la notion d'utilité. Et c'est là-dessus que j'ai voulu baser tout mon travail, parce que c'est quelque chose que je ressens en moi-même déjà, et que quand j'écoute les gens sur ça parle, quoi. Et du coup, le sport, il est comme tous les autres phénomènes sociaux, il suit la logique néolibérale, quoi. Mm-hmm. Donc du coup, ça suit finalement ce sport qui. Toujours, tu vois, la notion d'utilité, quoi. Aller faire son jogging, aller faire soulever sa barre de musculation, tu vois.
D'utilité et même d'excellence.
Ouais, il y a ça aussi. Bon, et après, non, il y a pas que l'excellence, ça fait partie du truc, mais c'est pas que ça, quoi. Il y a pas que l'excellence, mais on peut très bien. Il y a pas mal de gens qui me disent non, c'est pas du tout pour être excellent, hein. Mais c'est quand même pour alimenter, pour. C'est utile. Mm-hmm. C'est utile.
Okay. Justement, le néolibéralisme, là-dedans, ce qu'il en fait du sport et tout, qu'est-ce que t'en penses ?
C'est ça. Ce qui est intéressant, c'est. Du coup, ce qui est dangereux aussi, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure en début d'émission. Tu as toujours ce capitalisme qui est en place, extérieur, la lutte des classes. Karl Marx n'est pas mort, c'est ce que je disais. Qui est très présent, et voire même qui est en train de s'agrandir, tu vois, avec les notions de classe sont en train de s'agrandir. Il y a une très faible partie de la population qui explose, qui domine une grande partie de la population, et ça va en s'empirant, quoi.
Ouais.
Mais pour moi, ce qui a fait l'objet de ma recherche, c'est qu'il y a aussi un nouvel ennemi. Et justement, ça rejoint ça, c'est même dans nos pratiques quotidiennes, que ça soit le sport, les voyages, le loisir, le travail, n'importe quoi. On a toujours cette tendance à vouloir rendre utiles les choses. Et tu vois, il faut toujours. C'est comme si l'ennemi, si on parle d'ennemi entre guillemets, hein, il n'était plus seulement à l'extérieur de nous. Il est à l'extérieur de nous, mais il est aussi à l'intérieur. C'est-à-dire qu'en fait, en nous-mêmes, c'est ce que Michel Foucault appelle la subjectivation. Tu vois, c'est un philosophe, super bon, quoi, très connu à l'étranger, qui était dans les années 70, très, très bon, quoi, qui a fait un concept qui s'appelle la biopolitique et qui rejoint exactement ça. Il parle de notion d'homo economicus. Mm-hmm. Et en fait, c'est comme si toute notre vie se basait sur le coût et le gain, l'avantage et le désavantage. Tu vois, on fait pas les choses comme ça. Il faut toujours qu'il y ait la réflexion derrière à quoi ça va me servir.
Le profit, quoi, en fin de compte.
Exactement.
La recherche du profit. Donc, à ce moment-là, t'es à 100% dans l'idéologie capitaliste.
Ouais. Mais faut faire attention non plus, hein. J'ai pas dit que les gens qui vont en salle de sport, non, c'est uniquement des gens qui vont prouver. Enfin, c'est une tendance. C'est une tendance et c'est un sport Enfin, pour moi, ça adopte cette tendance-là, mais il ne faut pas non plus en faire une généralité.
Non, non, mais bien sûr, mais après, que le sport y suive une tangente qui est celle de la société en général, c'est tout ce qui est plus logique. Ce que tu essayes de faire, en fin de compte, c'est de l'analyser. Pourquoi le sport, il devient comme ça? Et c'est comme ça dans plein de sphères de la société. On va prendre les arts culturels, par exemple, le cinéma d'il y a 30-40 ans, c'est pas le même cinéma qu'aujourd'hui. Et forcément, il suit les tendances de la société et de l'économie en général, quoi.
Exactement. Il y a un auteur qui s'appelle Kastoriadis, qui est très intéressant, c'est un sociologue aussi, hein, et qui travaille justement sur la notion de colonisation de l'imaginaire social. Tu vois, c'est comme si, enfin, c'est comme si nos cerveaux avaient été colonisés par l'esprit néolibéral. Et donc, ben, moi, mon objectif de thèse, ça serait plus d'aller décoloniser l'imaginaire. Tu vois, il y a beaucoup dans les mouvements libertaires, on parle beaucoup de ça d'ailleurs, hein, de décoloniser l'imaginaire. Et finalement, c'est ça, c'est que bon. Il y a beaucoup de choses qui se passent en extérieur, il y a des choses qu'on peut pas faire, qu'on peut pas influer dessus, c'est trop dur. Mais il y a plein de petites choses. Finalement, il y a une phrase de Kinarkana qu'on va mettre et qui dit pour changer le monde, il faut déjà changer soi-même, quoi. Tu vois, c'est, je reviendrai tout à l'heure après le morceau sur ce que je travaille, notamment la sociologie clinique. Et c'est ça, c'est que Il y a aussi un travail sur soi à faire, travail de compréhension, de libération finalement de cette emprise psychique qui est très forte.
Mais c'est même le tenant et les aboutissants de la révolution, c'est que si tu te libères pas déjà toi-même et que tu t'affranchis pas des barrières qu'on t'a mis dans la tête, que ce soit du côté de ton éducation, de la religion ou de ce qu'on peut faire dans les sphères sociales, ton patron qui te pose des limites à un moment donné, il va te dire, ton patron ne te syndique pas, ça sert à rien. Il va te le dire. C'est à partir du moment où tu t'es affranchi de ça que tu arrives à construire une idée révolutionnaire et à faire avancer la société, quoi. Donc ce petit morceau de Kenny Arcana, il va être très très parlant. D'ailleurs, enfin moi perso, je le trouve vraiment 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 touchant, que ce soit musicalement ou au niveau des paroles aussi, qu'il est super bien foutu. Donc c'est Kenny Arcana. Le titre c'est quoi déjà le titre?
Entre les lignes, cloué au sol.
Voilà, c'est ça, exact.
2007, je crois.
Allez, c'est parti, en avant.
La tête vers le ciel, vers la splendeur de l'éternel ailleurs, cherchant l'étoile qui fait tourner la roue, loin de ce quadrillage où même l'air ne peut être libre comme l'art, comme la pureté d'un geste, la profondeur d'une pensée illimitée quand l'opinion est HS, hein. Mâcher mes mots, voir largesse, bargesse, la frontière si fine entre folie et sagesse, réflexion pesante, cheminement infini en quête de l'archétype, mais mon âme est souffrante, mémoire passée, qui voudrait voir mon espoir cassé, où est la perche, où est la perche, maintenant j'en ai assez, je me noie. J'ai perdu ma barque quand j'ai vu que celui qui la conduisait n'était autre que mon ennemi. Mais comme quand la nuit tombe, l'océan et le ciel ne forment qu'un, alors j'ai pu voir l'espace infini aux libertés. Ma chère amie, ta présence est abstraite, vu que c'est dans ma tête que j'ai appris à te connaître aux libertés. Imbibe mon encre et ne quitte plus mes pensées, bulle d'oxygène dans un monde limité où la vérité se cache en nous. Clairvoyance, intuition, mais avons-nous idée de tout ce qui se cache en nous? C'est rire contre l'arme, l'ego contre l'âme, et à plus haute échelle, je dirais Illuminati contre l'homme. Époque cruelle, dénuée de sens, dur de voir clair derrière les mascarades et les buées de sang. Je me sens comme perdu au cœur d'une immense machine qui n'en a jamais eu et qui nous dénature. Mauvais pressentiment quand je pense au futur, les yeux ouverts, l'horreur tente de me les crever, mais le plus dur reste à venir, le jour où ce sera trop tard, où la surveillance sera absolue et nos prénoms seront des codes barres. Tout va de plus en plus vite, car pour eux le temps c'est de l'argent, alors on oublie de vivre, c'est navrant. Nous se craignons vite que rien ne comblera, car l'ombre s'est emparée notre monde, mais on croit que ce qu'on voit ou ce qu'on veut bien nous laisser voir. Donc ouais, on est aveugle, ça me fait mal au cœur, mais regarde, même nos âmes bug. Au fond de nous c'est tourment, car dehors c'est tourment. Soumis à notre sort, on oublie que la vie est mouvement, que la force est issue d'un idéal ou d'une volonté transcende, où les schémas établis, que les barrières sont dans nos crânes, qu'on est seul à pouvoir les virer, se libérer en laissant notre cœur s'émouvoir. Trop porté sur l'extérieur et à force vouloir être comme tout le monde, faisons quelqu'un, en fin de compte on devient ce qu'on nous montre, au lieu d'être ce qu'on est. Pourtant ce mode de vie fait mal, mais on se laisse cogner, on subit un monde qui nous dépasse et qui nous replie sur nous-mêmes en nous laissant des traces. Alors je ferme les yeux pour ressentir la lueur, pouvoir faire le vide en moi afin d'être réceptif au bonheur. Faire changer le monde commence par se changer soi-même. Changer le monde commence par se changer soi-même. Changer le monde commence par se changer soi-même. Faire changer le monde commence par se changer soi-même. Changer le monde commence par se changer soi-même. Changer le monde commence par se changer soi-même.
toujours dans Les Yeux Grands Ouverts sur Radio Canu 102.2 FM et toujours avec Quentin Froment, doctorant en sociologie, qui est venu nous présenter un peu le sujet de sa thèse et puis échanger sur plein d'autres sujets aussi, puisque de toute façon il a du bagou et il a des choses à nous dire. Ouais, tu veux peut-être encore un peu débriefer sur le morceau, t'as des trucs à ajouter, non?
Ouais, non, juste conclure, ouais, bah on a bien. On a vu j'adore la fin du morceau, quoi. La fin du morceau, trop porté sur l'extérieur, on devient ce qu'on nous montre au lieu d'être ce qu'on est, tu vois, en fin de compte.
Ouais.
Et ça représente exactement ça. C'est finalement, dans des proportions mesurées, mais apprendre à se méfier aussi de nous-mêmes. On n'est pas aussi libre que l'on croit.
Ouais.
Et il y a plein de formes d'assujettissement. Et on est toujours assujetti à quelque chose. Et c'est pas forcément négatif. On est assujetti à sa famille. Notre famille nous a conçus. On est assujetti aussi à la société. La société nous a conçus. C'est pas forcément un mal. C'est pas un mal de vivre dans le néolibéral. Par contre, ce qui peut être énorme, et c'est là où je vais venir sur la sociologie clinique, c'est de comprendre. C'est, tu vois, il y a Sartre qui disait, l'important n'est pas ce qu'on a fait de nous, mais de ce qu'on fait de ce qu'on a fait de nous.
On est toujours fait
par quelque chose, et l'important c'est de prendre conscience qu'on est fait par ça et devenir un autre.
Mm-hmm.
Tu vois, et du coup, ben, pour moi, la libération de, tu vois, la sociologie clinique, c'est ça, c'est arriver à prendre conscience de ce sur quoi on est assujetti. Et je voulais juste dire, je veux pas du tout critiquer les salles de sport ou les gens qui courent dans les parcs, mais je veux juste, parce qu'il y a plein de motivations différentes, mais il y a cette motivation là qui existe, et je voulais en parler, quoi. Je voulais en parler. Mais c'est pas un ennemi, et c'est pas parce que, tu vois, il y a, comment dire, on va prendre conscience qu'on est assujetti que ça, qu'on va arrêter les choses. Mm-hmm. Tu vois, c'est juste qu'on va peut-être faire les choses différemment, ou qu'on va faire les mêmes choses, mais avec un autre point de vue, et du coup, ça va forcément modifier ce qu'on fait, de la manière tous les jours. Mais c'est des processus très lents. Très, très lents de comprendre qui on est.
Tout à fait. Oui, et alors qu'est-ce que tu pourrais nous dire de plus sur le sport et sur cette quête qui est permanente dans la société moderne de vouloir toujours être au top en fin de compte et d'avoir un corps en super forme et tout ça, t'as un avis là-dessus quand même?
Ouais, et ça va m'amener à la conclusion en fait, c'est, tu vois, d'être toujours dans le... J'ai pas dit que le sport c'était mal, hein, attention, le sport c'est
très
bien. Bien au contraire. Mais à force d'être toujours dans le faire, tu vois, le verbe faire, dans le faire, il faut toujours faire des choses, il faut être excellent, il faut être au top, il faut absolument que je rentabilise ma vie, il faut pas que je la loupe, il faut que je réussisse. À un moment donné, moi je vais plutôt faire l'éloge en fait de l'inverse, parce que le capitalisme se nourrit de l'énergie qu'on balance sur ça justement. Tu vois, on est tout le temps plein d'énergie.
Ouais.
La société de l'urgence, quoi, on fait plein de trucs tout le temps. On consomme, on fait, on, tu vois, et du coup, bah, on est complètement là-dedans. Et moi, je ferais plus une éloge. J'ai lu un livre, alors c'est Éloge de la démotivation. Tu vois, ça peut paraître un peu bizarre, mais c'est un livre vraiment intéressant, ou Éloge du laisser-aller. Tu vois, se dire attends, parce qu'en fait, on se dit putain. Si je me laisse aller, si je me démotive, je suis foutu. Je suis foutu. Si je vais en bas, je suis mort, je remonterai jamais. C'est tellement dur. Parce que tout le monde est en haut. Donc si t'es en bas, t'es mort, tu suis plus le rythme. Mais en fait, de plus suivre le... C'est peut-être ceux qui suivent le rythme qui sont les plus en stress et les moins en vie. Et que finalement, ben, de lâcher l'affaire, justement, de se laisser un peu plus aller, de se faire du désœuvrement, de l'inutilité, ben, ça peut permettre de, au contraire, pas de mourir, mais de reprendre vie.
Tout à fait. Il faut savoir s'arrêter à certains moments pour réfléchir et pour être un peu plus lucide et objectif sur tout ce qui se passe aussi.
Exactement.
Également. Et oui, donc on pourrait mettre une petite musique pour illustrer tout ça.
Je crois que j'ai la musique. J'ai la musique qui
assez,
passe bien, quoi.
Assez énorme, j'avoue.
C'est...
Allez, on vous fait écouter, petite surprise.
Et sans que le sport soit négatif, hein, faut...
Ouais, non, c'est vrai que le...
Mais c'est la petite musique qui passe bien à la fin, qui fait bien passer mon message.
J'avoue. Allez, c'est parti, en avant.
Moi, mon nom, c'est Smokey. La rumeur gronde, tous les gars sont sortis. On sort de l'ombre, faites chauffer les amplis. Pour donner un peu d'air. C'est clair, la route est longue à ce qu'on dit. Pour plaire au monde et à n'importe qui. On sort les flashs pour n'importe quelle tâche. La colère monte et les mecs se lâchent. Il va y avoir du sport, mais moi je reste tranquille. Il va y avoir du sport, mais moi je reste tranquille. Il va y avoir du sport, mais moi je reste tranquille. Il va y avoir du sport.
ville. Je veux faire de l'or, font bouger mon nombril. Me donner un peu d'air, c'est clair, c'est clair. J'ai rendu à mes amplis pour plaire aux cailles, éviter les ennuis. J'ai passé l'âge, laissé des ardoises. Il faut que je me pose quand tout le monde se lâche. Il va y avoir du sport, mais moi je reste tranquille. Il va y avoir du sport, mais moi je reste tranquille. Il va y avoir du sport, mais moi je reste tranquille. Il va y avoir du sport, mais moi je reste tranquille. Il va y avoir du sport, mais moi je reste tranquille. Le soleil plombe et les girls sont faciles. Dans la pénombre, préférez les dociles. Je veux toujours moins en faire, c'est clair. Allonge du cash pour smoker. Autant que je sache, c'est une bonne thérapie. On sort les flashs pour n'importe quelle tâche. La colère monte et les mecs se lâchent. Il va y avoir du sport, mais moi je reste tranquille. Il va y avoir du sport, mais moi je reste tranquille. Il va y avoir du sport, mais moi je reste tranquille. Il va y avoir.
Alors là, attention, c'était du très très lourd. Repartons. Alors, ce qu'il faut bien préciser quand même, c'est que dans l'histoire, l'objectif de Quentin, c'est pas non plus de cracher sur le sport, et de moi non plus, parce que tous les deux, on adore ça. C'est vraiment pas la question, c'est pas le sujet. C'est essayer de comprendre les tenants, les aboutissants, et qu'est-ce qui est devenu le sport dans la société moderne.
C'est presque comment s'est fait voler, le sport.
Exactement.
C'est un vecteur de lien social, un partage d'émotions. C'est la vie avec un grand V, quoi.
Ouais. C'est même un plaisir de, enfin, pratiquer du sport, mais pratiquer du sport pour pratiquer du sport avec des gens. Des fois, ça peut m'arriver à moi aussi, à toi aussi certainement, de faire des sports que j'apprécie pas particulièrement, mais juste pour passer du temps avec des copains, quoi, et rigoler ensemble.
Non, puis même le sport peut même aussi, justement, comme on est sur une perte du lien social, tout ça, ça peut être, peut-être pas révolutionnaire, mais. Tu vois, là, je parle toujours de sport parce que c'est le sport que je critique, que je décris, mais il existe un autre sport, justement, sur le lien social, le collectif, qui peut justement permettre de contrer cette idéologie-là. Mm-hmm. Donc, voilà, je tenais à préciser ça quand même.
Ouais, ok, d'accord. Donc, allez, un petit donc pour la route, parce que j'en je le dis pas assez souvent, donc il faut que je le dise un peu de temps en temps. Comme à l'accoutumée dans l'émission, il y a des petits torchons qui arrivent où chacun donne un peu son avis, et donc voilà, allez, un petit encore pour la route. Quentin va se plier un peu aussi à l'exercice. Tu voulais nous parler, toi, de santé personnellement dans ton petit torchon.
Je vais rester sur la ligne de conduite que j'ai eue, quoi. Ça va rejoindre énormément, en fait, ce que j'ai dit. C'est comme si t'es sport contre sport, tu vois.
Ouais.
T'as la santé, donc t'as deux types de santé, la santé physique et la santé sociale. Et ouais, là c'est vraiment un torchon, enfin c'est carrément un coup de gueule, mais c'est ce qui m'énerve, quoi, parce que j'ai fait mes études dans le sport et je vois très bien ce qui marche, c'est tous les sports pour la santé, mais pour la santé physique, quoi. Et du coup, c'est ouais, alors comment faut faire pour pas être gros, comment faire pour. Et je sais pas, on est toujours sur la question du comment. Et en fait, jamais sur la question du pourquoi. Tu vois, c'est pourquoi je suis gros, pourquoi je suis pas bien, pourquoi je suis machin. C'est pas... Et pour moi, c'est ça, c'est là. On parle pas assez de santé sociale. On parle presque que de santé physique, tout le temps, dans tout, partout.
Ah ouais.
C'est la santé physique. Il faut être en bonne santé, il faut être bien dans sa peau. Mais comment on est bien dans sa peau? C'est en faisant son jogging, bien sûr, ça compte, mais par rapport à l'immensité de la santé sociale, on est sur un déni de l'altérité dans nos sociétés. Tout est auto-évaluation, auto-gestion, auto-entrepreneuriat. Et tu vois, on est en train de perdre l'autre avec un grand A, tu vois. Et justement, sur la quête de santé physique, on perd l'autre, et c'est la santé sociale, c'est la santé sociale qui est la solution contemporaine. Enfin, j'arrive pas à comprendre comment on puisse mettre la santé physique comme résolution du problème actuel. Attends, l'obèse, quelqu'un qui est obèse, il est fort, enfin, il est pas bien physiquement, bien sûr, hein, on va pas dénier ça.
Ouais.
Il va se sentir en mauvaise santé. Mais c'est surtout le regard de l'autre, c'est le social, c'est qu'il est complètement mis à l'écart de la société, il est critiqué, enfin.
Ouais, aussi.
T'imagines pas ce.
Il peut aussi être, être obèse pour d'autres raisons que, enfin, je veux dire, ça veut pas.
Ouais, et
à cause d'un malaise social aussi.
Et il va représenter toute cette idéologie du laisser-aller, tu vois.
Ouais.
Que les gens détestent, quoi, tu vois, parce qu'on est dans l'idéologie de. Bah, justement, on va pas répéter tout ce qu'on a dit, tu vois, mais. Enfin, c'est. On va pas dire coup de gueule, mais j'arrive pas à comprendre comment on puisse axer autant. Et là, justement, je parle de ma discipline qui est l'EPS. Comment l'EPS peut axer autant. Dans les programmes, hein, parce que les profs d'EPS, ils font des choses superbes sur le terrain, hein, mais dans les programmes axés autant sur la santé physique et sur les fitness, musculation, tout ça.
Plus que
la santé sociale.
En fait, ils devraient plus mettre en avant l'aspect jeu, quoi, en fin de compte.
Ouais, mais il existe, je sais pas. Ouais. Mais c'est ça, enfin, j'en sais rien. Alors là, c'est plus en tant que chercheur, c'est en tant que citoyen que je parle, quoi. Mais pour moi, c'est ça la solution, quoi. Ce qui va pas, c'est que. Il y a un effritement du lien social, et c'est ça le mal contemporain. C'est pas la sédentarité, c'est pas, enfin voilà.
Ouais, que les gens ils apprécient en fin de compte de jouer ensemble plutôt que de faire un sport où ils vont être forts ou machin.
Bah ouais,
ou...
partager d'émotions, créer des choses avec les gens.
C'est vrai que c'est des grands moments là. Pour ça, le sport il est super utile, quoi.
Ouais.
Quand tu passes tu fais des matchs avec des copains ou même avec des personnes que tu connais pas à certains moments.
Bien sûr.
Là, on fait du foot ensemble. Bidule, on le connaît pas. C'est qui ce mec? Bah viens jouer avec nous. Et puis en fin de compte, bah tu passes un super bon moment avec lui. Tu le connais même pas.
Exactement. Quoi. Et en EPS, on a un rôle à jouer. On sait que toutes les disciplines, elles, c'est quand même individualiste. Tu vois, les élèves ils sont sur leur banc, ils sont sur leur chaise, ils bougent pas. Putain, en sport, en EPS, on a tout ce qu'il faut.
Ouais,
on a tout ce qu'il faut. Putain, prenons le truc, quoi, et allons sur le lien social, enfin, bon, ça, voilà.
Moi je suis en accord en grande partie avec toi sur tout ce que tu dis là-dedans. Alors à mon tour un peu, hein, je vais donner un peu aussi mon humeur du moment par rapport à deux trois choses qui se passent là. Par contre, au niveau des horaires, on est un petit peu en train de dépasser, mais c'est pas grave, la causerie s'est arrêtée un petit peu après, on va dépasser un petit peu nous aussi, donc du coup je sais pas quelle heure on arrêtera à l'heure qu'il faut, quoi. Petit mot déplacé, je sais pas si on pourrait appeler ça comme ça. Le débat revient de plus en plus, on en entend par-ci par-là des gens qui après que la cigarette ait été interdite dans les bars et les restaurants, la question d'une interdiction en terrasse se pose aussi de plus en plus. En effet, certaines personnes sont également opposées à la consommation de ces sucettes à cancer en extérieur, parce que dans certains cas, vous pouvez être entouré de personnes. Ceci a le mérite de soulever un débat, hein, quant à la qualité de l'air que l'on respire au quotidien, dehors ou dedans ou tout ça, mais aussi des effets nocifs que peuvent avoir certaines émanations inattendues sur la santé de chacun. Donc pour cela, le Premier ministre Manuel Valls a proposé qu'à partir de la rentrée soit mise en place de manière obligatoire dans tous les lieux clos à forte affluence une milice nommée la CDCQP.
Il est bon, lui, hein ?
Ouais, il est bon. Toutes les personnes se rendant coupables par exemple de flatulences excessives dans les boîtes de nuit se verraient immédiatement verbalisées par cette milice. À la hauteur, bien entendu, du litige commis. Hein. Le litige sera constaté par un chien assermenté, animaux à l'odorat surdéveloppé, hein. Évidemment, c'est plus facile. Alors, désolé pour tous les amoureux du cassoulet, mais avant de sortir, hein, ce sera niet, après. Donc la verbalisation qui sera immédiatement reversée dans la caisse afin de financer le CICE de 50 milliards d'euros qu'on va offrir au patronat. Dans l'hémicycle, le Premier ministre a utilisé son art oratoire hors pair, hein, bien sûr. Il faut se rappeler quand même que ce mec, c'était le conseiller en communication de François Hollande pendant la campagne, hein. Donc il a des figures de style qu'il affectionne tout particulièrement. Il s'est exprimé dans ces termes, alors. Le PS, c'est lui qui fait de la République qu'elle se délite. Le PS, c'est ce qui provoque la montée du racisme. Le PS, c'est ça qui fomente le terrorisme. Le PS, c'est lui qui ruine la croissance économique. Qu'est-ce qu'il est fort, hein, quand même, Manuel Valls, avec ses anaphores excellentes. Il faudra seulement lui expliquer que c'est pas en chassant la flatulence qui chassera les idées de merde qui émanent de son cerveau. Donc voilà, j'espère que vous avez cru l'info que je viens de vous donner là. Hein, vous y avez cru, non? Vous avez cru? Vous avez pas cru. C'est pas grave, tant pis. Un petit coup de gueule perso. C'est totalement, enfin, c'est personnel. Je pense qu'il y a plein de personnes qui sont d'accord avec moi. Mais le fait que notre gouvernement ne réagisse pas, bon, vous allez me dire, ça fait à peu près 30 ans que ça se passe comme ça. Je voulais parler de l'affaire Snowden. En effet, dernièrement, prochainement, ce mec va se voir, va voir son autorisation de fouler le sol russe terminée. Il se termine au mois d'août. L'asile qui lui avait été accordé l'an dernier et qui lui avait permis d'éviter l'extradition aux États-Unis, qui lui pendait au nez, où là-bas il pourrait être accusé d'espionnage et de vol de documents appartenant à l'État. La question qu'on a en droit de se poser, c'est pourquoi la France a été muette sur ce dossier et incapable de lui proposer l'asile politique. Est-ce qu'on est devenu les caniches de l'OTAN à ce point-là? Cet homme qui a révélé au monde entier que la NSA espionnait partout, jusqu'au téléphone d'Angela Merkel ou même à la Commission européenne, lui qui a révélé que la NSA avait accès dans ce qu'ils appellent une interception légale à tout, en fait ils ont accès à toutes les données de Gmail, Facebook et Microsoft. Seulement il faut qu'ils aient un prétexte, alors ils parlent d'interception légale dans certains cas. Normalement ce contenu doit être défendu et protégé, hein, c'est ce qui est prétendu par ces trois grands groupes, hein. Même si ce mec n'est pas du tout de nôtre, je me permets de dire nôtre, mais surtout de mon obédience politique, parce que ce mec il était favorable au Patriot Act et il bosse pour les services secrets américains. Il doit avoir des convictions qui sont spéciales sur pas mal de sujets, mais il a quand même le mérite d'avoir laissé fuiter des informations qui sont indispensables pour connaître jusqu'où vont les atteintes aux libertés dans la première puissance mondiale. Et puis surtout révéler des informations quant aux relations internationales et comment elles peuvent se dégrader. Alors pourquoi on lui accorde pas un asile politique en France? C'est une question qu'on doit se poser. Certains députés essayent de faire entendre leur voix à l'Assemblée. Ils sont pas super nombreux, mais ils essayent. Ils soutiennent cette thèse. Mais malheureusement, comme on sait comment fonctionne le système politique aujourd'hui, ils pourront rien tenter puisque c'est une monarchie parlementaire. C'est le président de la République qui décide et les autres qui exécutent. Pour ceux qui sont de fervents soutiens de cette voie, je rappelle qu'il existe une pétition sur internet. Malheureusement c'est le magazine L'Express qui a mis ça en avant, hein. C'est un magazine un peu pourri, mais bon, si la bonne cause peut être utilisée pour ça, pourquoi pas, sachant que la pétition a déjà reçu à peu près 180 000 signatures. Ça peut valoir le coup d'aller la signer. On peut peut-être parler un peu de politique parce que là il nous reste un peu de temps et puis sur la fin de mon billet, voilà quoi. Là par exemple je parlais de la monarchie parlementaire qu'est la 5ème République, le fait qu'en fin de compte c'est une personne qui décide pour tout le monde. Est-ce que toi t'as quelques petits avis sur la démocratie?
Tu veux vraiment me lancer là-dessus?
Et pourquoi pas?
Parce que là c'est pas grave,
il y a personne derrière. Non mais oui, voilà, parce que je sais qu'après on a des avis qui sont un peu divergents là-dessus, parce que moi je pense que après je suis pas forcément d'accord avec le système parlementaire, je suis pas du tout même d'accord avec le système parlementaire qui est en place à l'heure actuelle, mais c'est comment changer la forme de ce système-là. On n'est pas forcément d'accord là-dessus, mais explique-nous un peu comment tu verrais la démocratie, qu'est-ce que c'est la démocratie idéale pour toi?
Bah, la démocratie, déjà, c'est pas ce qu'on vit actuellement, c'est pas du tout ça. Ça a été complètement inversé. La démocratie, c'était Athènes, c'était la démocratie athénienne, c'était le tirage au sort. Mm-hmm. La démocratie, c'est ça. C'est le peuple qui a le pouvoir. Et je sais pas, là-dessus, moi je suis pour... Pour le tirage au sort en politique. Mmh. Pour tirer, je sais pas, en France, 500 ou 1000 personnes qui font une assemblée constituante.
Ouais.
C'est beaucoup plus démocratique, beaucoup plus juste. Plus juste, parce que là, ce qui se passe, c'est que on donne du pouvoir aux gens et après on s'étonne qu'ils abusent de leur pouvoir. Montesquieu, il disait, mais le pouvoir, il a pas de limite. Il a totalement raison. Le pouvoir n'a aucune limite. Je sais pas, tu me donnes, tu me mets, mais attends, je sais pas, Hollande, c'est sûrement un chic type, j'en sais rien, j'ai jamais parlé, mais. Il faut arrêter. Si on les met tous en prison, on met tous les ministres en prison, ça servira à rien. C'est pas le problème, c'est pas les gens, c'est les lois.
Ouais,
c'est les lois.
C'est les fonctions.
On critique une soi-disant démocratie représentative. On critique puis on va aller voter.
Ouais.
On va voter, donc on va cautionner un système qu'on ne cautionne pas. C'est une démocratie. Un gouvernement représentatif ne peut déboucher que sur une oligarchie. Ouais. C'est comme ça, et après je comprends pas les Si on n'est pas d'accord avec le système actuel, on arrête de voter, on prend en main dans des basses organisations à basse échelle et on commence à créer de la sociologie. De la démocratie directe. Ouais. La démocratie directe, de la sociocratie. Et derrière, on commence à mettre en place tout doucement, dans les communes, puis après, etc., le tirage au sort. Enfin, moi j'y crois. Bon, après, la grande contrainte, les gens ils vont me dire, ouais, non, mais attends, les gens ils sont irresponsables. Oui, mais moi je fais le pari qu'ils sont irresponsables parce qu'on les met dans une position, on nous met dans une position d'irresponsabilité. Je suis démocrate, je crois fondamentalement en l'homme, enfin, au citoyen. Je pense que si tu mets un citoyen devant ses responsabilités, il va les prendre. Enfin, ça pour moi, je suis un réel démocrate. Et celui qui me dit, le mec qui va arriver, il est complètement irresponsable, t'as vu ce qu'il traîne dans la rue, ce n'est pas pour moi un démocrate. S'il dit qu'il n'est pas démocrate, ça me va. Mais qu'il ne vienne pas me dire qu'il est démocrate.
D'accord. Après, ouais, sur certains aspects, là, moi, je suis sur le principe, on va dire que je suis d'accord. Mais moi, selon moi, tout ça, ça pourrait être le résultat d'une longue éducation politique. Parce que aujourd'hui, venir mettre des personnes dans une assemblée, qu'elle soit constituante ou nationale ou décisionnaire, c'est compliqué parce qu'il y a énormément de gens qui ne sont pas vraiment politisés. Il faut que l'éducation, alors à ce moment-là, il faut tout reprendre à la base. Par l'école, quoi. Là, je te suivrai. Enfin, je pense que tu, de toute façon, t'es d'accord avec ça. C'est que c'est un travail de longue haleine. Ça se fait pas du jour au lendemain, quoi.
Ça se fait, c'est même. Je sais pas, pour aller très loin, on va dire que c'est en question de siècle. On vivra peut-être même pas le truc, mais c'est pas important, ça.
Non,
c'est pas important. Enfin, on vous rejoint toujours. C'est important pour ceux qui veulent réussir leur vie.
Ouais.
Mais si t'as un projet utopique pour l'humanité.
Il faut prendre le temps de le mettre en place.
Prendre le temps, mais puis c'est une joie, c'est une super joie de mettre en place ça. C'est-à-dire que créer une politique qui va être bonne pour les futures générations. C'est-à-dire que toi, tu t'épanouis. C'est pas une question, ouais, eux, ils vont profiter, pas nous. Ouais. Nous, on s'est cassé le cul. Non. On s'est cassé le cul, mais c'est un plaisir de se casser le cul. Ouais. Plutôt que de vivre sa vie, essayer de réussir sa vie individuellement, je trouve que c'est beaucoup plus plaisant. Enfin, moi, depuis que je m'intéresse un peu à ça, je me sens 10 fois mieux, quoi. C'est hallucinant.
Ok. Oui. Après, on peut aussi essayer d'approfondir le débat. Il y a donc ce petit aspect sur lequel je suis pas forcément en accord. C'est sur le tirage au sort. Je pense que dans la société moderne, c'est applicable à court terme de manière très très compliquée. Il faut trouver un personnel qui selon moi qui est politisé pour pouvoir réagir dans ces moments-là. Après, là où je suis d'accord avec toi, c'est que de toute façon, il faut instaurer une démocratie directe. Et la démocratie directe, elle commence parce que on oublie trop souvent de dire, mais qui devrait être obligatoire dans tous les pays qui se prétendent des démocraties, ça devrait être le mandat révocable. Ce qui a été instauré notamment au Venezuela, ça se fait au milieu d'un mandat d'un président, il y a un référendum et il décide s'il continue son mandat, s'il le termine ou s'il le stoppe à ce moment-là. Et ben, ce genre d'initiative, elle devrait être possible n'importe quand. Je crois que ça fonctionne aussi comme ça au Venezuela. Il me semble que si il y a des pétitions qui tournent et lorsque un sujet a réuni un certain nombre de signatures, du genre 500 000 ou je sais pas quoi, ils sont obligés de convoquer un référendum. Ce qu'ils appellent un référendum révocatoire. Donc, si par exemple, on décide que je sais pas quel président est arrivé. Là, par exemple, en France, aujourd'hui, François Hollande, on dit aujourd'hui, on fait voter les Français, un référendum. François Hollande continue-t-il à la tête de l'État ? Et les gens voteraient. Et là, pour moi, ce serait vraiment l'avènement d'un début de démocratie.
Je suis d'accord, mais tu mettras Hollande, t'en mettras un autre, t'en mettras un autre, t'en mettras un autre.
Ouais,
c'est les mêmes, c'est
voilà.
Pareil, en fait. Mais
je suis d'accord avec toi.
En fait, tu vois, dans le tirage au sort, c'est un contrôle du peuple qui est énorme. Il y a un contrôle, il y a un référendum populaire qu'on peut placer quand on veut, où on veut. Tu vois, et il n'y a pas cette élite, finalement, qui, on sait très bien par qui sont financés les partis politiques. Tu vois, c'est les finances, enfin, c'est la finance, quoi.
Ouais.
Finalement, François Hollande ne sert pas. Les ministres ne servent pas les intérêts du peuple, mais ils servent les intérêts de ceux qu'ils ont payés, ce qui est logique. Ce qui est presque même malheureusement logique. C'est à nous, et c'est pour ça que, avec l'élection, tu vois, c'est aristocratique. L'élection, c'est le meilleur. On élit le meilleur, mais tu vois, on reste sur le meilleur, on reste toujours sur le meilleur.
Ouais.
Ça crée toujours de la jalousie, tu vois. Le tirage au sort, mais en fait, la société humaine, pour moi, elle crée. Il y a toujours de la jalousie, et on dit, ouais, alors ça, c'est naturel. Pour moi, c'est culturel. La création de. On va dire entre guillemets jalousie, c'est culturel. S'il y a du tirage au sort, c'est du hasard. le hasard, il y a pas plus juste que le hasard. Non, d'ailleurs,
si on parle plus impartial en tout cas.
Si on parle de Coupe du Monde, on va attendre les événements sportifs, ils utilisent tous. Enfin, encore heureux que si c'est vrai quoi, mais ils utilisent presque tous le tirage au sort. La Coupe du Monde, enfin, c'est le truc le plus équitable.
Ouais, non, mais c'est sûr. Après, sur le principe, loin de moi l'idée de remettre ça en question.
Ouais, bien sûr.
À court terme, je dis, c'est compliqué. Après, tout à l'heure, tu parlais de oui, même si on réévoquait François Hollande aujourd'hui, oui, c'est sûr que la personne qui viendrait se mettre à la place, enfin, ce serait la même chose. Ce qu'il faut, pour moi, c'est fait défoncer cette République et déjà arrêter avec cette fausse démocratie représentative. Là-dessus, je suis d'accord avec toi à 200%. Mais ce que je voulais juste appuyer sur le fait que il faut vraiment inscrire ça dans un processus à long terme. C'est que on peut le dire, on peut le penser, mais il faut vraiment que, à partir de l'école, on sensibilise les gamins à la politique, ce qui n'est pas fait aujourd'hui, même à l'économie d'ailleurs. Hein. À l'économie, quand j'entends, quand je dis ça, c'est au sens noble du terme, pas leur donner des cours sur la bourse et comment vendre des actions au bon moment et au mauvais moment. Mais c'est vraiment de refonder l'éducation en elle-même, faire comprendre aux gamins des tout petits comment fonctionne le monde et que eux aussi ils ont leur mot à dire là-dessus. Et surtout, ne pas leur faire oublier que quand ils votent pour eux, mais ils votent aussi et surtout pour l'intérêt général, pour tout le monde, pour que la société se sente bien grâce à leur vote.
Non, bah, je suis complètement d'accord avec toi sur l'éducation. C'est l'institution qui a le plus à influencer sur la future société.
Ouais.
Là, on parle, enfin, c'est pas qu'on branle les mouches, tu vois, mais t'as raison là-dessus.
Faut
se le dire aussi, on est en train de branler les mouches parce qu'on parle comme ça, mais t'as raison sur le processus à long terme. C'est-à-dire qu'on peut pas mettre maintenant, tiens, allez hop, tirage au sort, on met des mecs. Non, ouais. C'est pas possible.
Certaines personnes, tu les imagines dans une assemblée nationale parce qu'on en connaît.
Non, mais
tous.
C'est même pas ça. C'est que de toute façon, il y a une société qui est en place. On est sur un marché. La France, l'État français sur un marché. Il faut faire du protectionnisme. C'est hyper complexe. C'est vrai que pas tout le monde est. Mais c'est ça, c'est pas dire, allez hop, demain, tiens, tirage au sort, allez hop, on élit 500 mecs. Non. Ça va prendre du temps, justement, l'éducation, ça va prendre énormément de temps. Mais par contre, on peut commencer à réfléchir là-dessus. Parce que c'est vrai que maintenant, là, on est foutu, quoi. Si maintenant, on lâche l'affaire économique, on est mort. À part si on fait du gros protectionnisme, et là, ça peut arriver à des théories super dangereuses, quoi.
Ouais, non, carrément, c'est sûr. Parce que la démocratie, c'est un sacré sujet de conversation, en tout cas. Sur le principe, sur le fait que il faut vraiment changer la société par le bas, je suis d'accord avec toi, c'est l'éducation populaire, en fin de compte. Faire comprendre aux gens qu'ils ont le pouvoir, en fin de compte, parce que, comme on dit souvent,
on est 99%.
Voilà, et eux, ils sont 1%.
Exactement.
Malheureusement, aussi, ils ont les forces d'action, puisque, comme il y a des connivences, l'armée, souvent, on dit un peu dans le milieu, police nationale, milice du capital, c'est eux qui ont les manettes. Mais vu le nombre qu'on est, si jamais on fait vraiment quelque chose de lourd et qu'on commence à faire fonctionner la démocratie différemment, il y a possibilité de faire bouger un peu les lignes. Après, là, sur un truc que je sais où on est moins d'accord, c'est que toi, tu penses que le rapport de force, il peut être très très long et faire modifier la société sur le long terme.
On n'est pas pressé.
Ouais, c'est ça. Moi, je pense qu'il y a un moment donné, il va falloir qu'il y ait une insurrection et qu'il y ait quelque chose qui secoue vraiment les marqueurs traditionnels. Je dis pas que c'est obligatoire, mais je pense que ce sera compliqué sans en passer par là, en tout cas. Qu'est-ce qu'on fait? Il est quelle heure, là? Encore un petit peu de temps, là. Non,
il est minuit 20 déjà.
Écoute, on va se passer un petit morceau de Renaud là. Société, tu m'auras pas, c'est pour un petit peu symboliser tout ça. Hein. Et puis ce sera déjà pas mal. Allez, en avant.
Antoine avant moi, il y a eu Dylan avant lui, après moi qui viendra, après moi c'est pas fini. On les a récupérés, oui mais moi on m'aura pas, je tirerai le premier, je viserai au bon endroit. J'ai chanté 10 fois, 100 fois, j'ai hurlé pendant des mois, j'ai crié sur tous les toits, ce que je pensais de toi. Société, société, tu m'auras pas. J'ai marché sur bien des routes, j'ai connu bien des patelins. Partout on vit dans le doute, partout on attend la fin. J'ai vu occuper ma ville par des cons en uniforme, qui étaient pas vraiment virils, mais qui se prenaient pour des hommes. J'ai chanté 10 fois, 100 fois, j'ai hurlé pendant des mois. J'ai crié sur tous les toits ce que je pensais de toi. Société, société, tu m'auras pas. J'ai vu pousser des barricades, j'ai vu pleurer mes copains. J'ai entendu les grenades tonner au petit matin. J'ai vu ce que tu faisais du peuple qui vit pour toi. J'ai connu l'absurdité de ta morale et de tes lois. J'ai chanté 10 fois, 100 fois, j'ai hurlé pendant des mois. J'ai crié sur tous les toits ce que je pensais de toi. Société, société, tu m'auras pas. Demain, prends garde à ta peau, à ton fric, à ton boulot, car la vérité vaincra, la commune refleurira. Mais en attendant, je chante et je te crache à la gueule cette petite chanson méchante que t'écoutes dans ton fauteuil. J'ai chanté 10 fois, 100 fois, j'ai hurlé pendant des mois, j'ai crié sur tous les toits ce que je pensais de toi. Société, société, tu m'auras pas.
Il y a eu un petit bug microïstique, mais
c'est bientôt la fin.
c'est complètement la fin. Mais voilà, donc c'est terminé pour l'émission des yeux grands ouverts de la première du dimanche en quotidienne. Dimanche soir, 23h minuit, on sera là. Enfin, je serai là ou on, en fonction de qui sera là et qui ne sera pas là. 23h minuit, je l'ai dit. 102.2 Radio Canu. J'ai un peu du mal, c'est la fin. Je vais quand même relancer un petit appel au soutien pour l'émission de Là-bas si j'y suis, qui passe sur France Inter, enfin qui passait en l'occurrence tous les jours de la semaine. J'entends un fond musical, c'est normal, non? Enfin bref, qui passait tous les jours de la semaine de 15 à 16. Et vous rappelez que vous pouvez les soutenir en allant sur la-bas.org, qui a une pétition qui peut être signée. Et voilà. Dire que nous avons aussi une boîte mail, les yeux grands ouverts, tout attaché, avec grand et ouvert avec un S, @laposte.net. Et qu'on a également un compte Facebook qui s'appelle Les Yeux Grands Ouverts aussi, tout attaché, Les Yeux Grands Ouverts aussi, grand et ouvert avec un S. Alors voilà, et ben, que vous souhaitez de plus? Et ben, je vous souhaite une bonne fin de soirée. Je pense que c'est demain, c'est le 14 juillet. Hein. Ça c'est important, c'est une belle date. D'ailleurs, ça fera l'objet d'une émission que je prépare tranquillement sur la Révolution française. La prise de la Bastille, c'est un beau symbole. Il faut se rappeler que on a les clés en main et que quand on veut, excusez-moi le terme, leur foutre au cul, on peut le faire. Voilà. Pour conclure, un petit mot, t'as une autre, t'as envie de dire non?
Bon, non, juste, quand tu disais le 14 juillet, il y a une petite chanson de Renaud qui est pas mal, Hexagone,
ah,
qui
oui,
parle
oui.
un peu de 14 juillet, plus en négatif d'ailleurs.
Ah ouais, mais ouais,
ça m'a fait penser à ça.
Et voilà, je le dis encore un petit pour la route, allez. Et ben, bonne fin de soirée à tous, et puis n'essayez de pas boire trop d'alcool si vous avez l'intention de sortir. Et puis, amour et sédition, mes amis. À la prochaine, ciao, bye bye.
Ciao. Qu'elle est dans